CFM Villefranche, le mag.
Vous venez de nous rejoindre, l'édition du magazine d'actualité de ce début de semaine, la suite avec en studio, comme annoncé, Didier Vallet. Bonjour Didier.
Bonjour David.
Sommité fleuri de la biodynamie, paysan spécialiste des plantes aromatiques et médicinales. On va s'arrêter là pour la présentation, sinon on va encore prendre un quart d'heure et on va pas pouvoir finir de parler du pissenlit au programme aujourd'hui. Suite est peut-être fin, mais on ne sait pas encore. On peut pas prédire ce qui va se passer une nouvelle fois aujourd'hui avec vous, Didier, le pissenlit, oui. Il y a deux semaines, une pré-introduction et un podcast à disposition sur le site cfmradio.fr. Le pissenlit, je m'éclipse, je ne pose pas de questions.
Oh si, si. Non, mais c'est très bien, parce que ça permet de répondre à des questions que pourraient se poser les auditeurs qui sont en train d'écouter, donc c'est très bien. Non, mais voilà, la dernière fois, nous avons vu un petit peu, pas grand-chose sur le pissenlit, à part qu'il est très commun, très rustique, sa couleur jaune, hein, comme pratiquement presque toutes les fleurs de printemps, blanc ou jaune, les couleurs rouges, alors si du bleu clair par exemple avec les véroniques qu'on a au printemps, mais autrement les couleurs rouges ou bleu foncé arrivent plutôt sur les plantes d'été. Alors pourquoi Voilà, la question est posée. Pourquoi les couleurs varient en fonction des saisons? En tout cas, ce n'est pas dans les molécules ou des choses comme ça qui contiennent la plante qu'on peut le trouver. Hein. Donc, je vous disais que la dernière fois que le pissenlit, même en étant tout commun, il a des particularités vraiment que n'ont pas les autres plantes. Par exemple, déjà ses feuilles. Les feuilles, elles sont toutes à la base, les feuilles. Alors c'est difficile, hein, je suis obligé, j'ai l'image dans ma tête, et il faut trouver les mots pour que tout le monde, pour partager cette image. Alors j'espère que parmi les auditeurs, tout le monde a déjà vu un pissenlit.
Oui.
Donc, alors au tout début, les premières feuilles, elles ne sont pas du tout découpées. Elles sont ce qu'on appelle lancéolées, c'est-à-dire sur, comme une forme de pointe de lance. Et puis, petit à petit, elles se découpent. Mais elles ne se découpent pas comme font les feuilles d'habitude. Parce qu'une feuille, quand elle se découpe, c'est un geste qui part de la nervure centrale de la feuille et qui va vers l'extérieur, mais venant de la plante elle-même. C'est-à-dire que, comment vous dire, je ne sais pas, si vous voyez une feuille de frêne qui est constituée de plein de petites folioles, elle est très très découpée, il y a une nervure centrale, une tige centrale, et puis les feuilles vont de la nervure vers la périphérie. Tandis que le pissenlit, il a un geste totalement différent, c'est-à-dire il y a une nervure centrale, il fait comme un petit sapin, c'est-à-dire il y a une nervure centrale, et au lieu que les pointes aillent vers l'extérieur, elles reviennent vers le centre, vers la racine quelque part, vers le centre du pissenlit. C'est très difficile à décrire. Bon, j'espère, normalement, on devrait au printemps faire des journées un petit peu d'initiation à l'observation des plantes au jardin de Cham.
À Villeneuve, on
donc, peut j'espère pouvoir vous montrer les choses directement, parce que les mots me manquent de temps en temps pour transcrire les images que j'ai en mots et puis essayer de vous le faire partager, disons. Mais la feuille est complètement différente. Si vous voyez les pointes de la feuille, au lieu, si vous prenez une feuille de chêne, bon, c'est pas vraiment des pointes, c'est pas très pointu, mais c'est un peu ondulé, mais ça va vers l'extérieur du chêne. Tandis que là, le pissenlit, les pointes, elles reviennent vers le pissenlit. Donc déjà, première particularité que très peu de plantes font. C'est vraiment un geste inordinaire. Ensuite, il y a quelque chose de très particulier aussi, c'est que les boutons floraux, ils se forment juste à la base. Quand en ce moment on ramasse des pissenlits pour faire des salades, il y a déjà des boutons de fleurs, ils sont juste à la base. Et puis, tout d'un coup, ils vont se mettre à pousser, il va y avoir un pédoncule, une tige qui va faire monter le bouton floral vers le haut. Une tige assez particulière, parce qu'elle est toute creuse, on peut en faire des sifflets.
Oui.
Une des utilisations du pissenlit aussi pour les enfants. Et après, la fleur va pouvoir s'ouvrir quelque part. Quelquefois, elle s'ouvre directement tout en bas, mais la plupart du temps, quand même, elle monte pour que les graines soient en hauteur et que le vent puisse les emporter. Donc, ça aussi, très peu de plantes le font. La fleur, elle peut être tout en bas, elle peut être en haut, mais c'est très rare qu'on ait le bouton de fleur en bas et que tout d'un coup, ils se mettent à monter, mais très très rapidement, en 2-3 jours. Il va monter à 20 cm de haut. Hein. Donc, et puis avec une tige qui est solide tout en étant creuse quand même. Donc voilà une particularité. Autre particularité que là, on ne peut pas voir avec ses yeux, mais qu'on découvre, c'est la reproduction. Normalement, les plantes se reproduisent. Alors, elles sont fécondées, c'est-à-dire il y a un principe mâle, un principe femelle dans la fleur, ce qu'on appelle des gamètes, et ils se fécondent entre eux quelque part. Hein. Gamètes mâles, gamètes femelles se fécondent. Donc on a ça. Alors le pissenlit, donc on voit beaucoup d'abeilles dessus. Donc ça veut dire qu'il est fécondé par du pollen de pissenlit d'à côté. Mmh. Mais il est aussi auto-fécond, c'est-à-dire il est pollinisé aussi par lui-même, par le pollen mâle de la fleur vers la gamète femelle de la même fleur. Donc là, il n'y a pas de... On reste quelque part dans la même source génétique. Il n'y a pas de croisement génétique avec des fleurs voisines. Et il va encore plus loin. C'est-à-dire, s'il n'y a pas eu d'abeille qui est venue le polliniser, donc il peut déjà se faire sa graine lui-même. Il est autonome. Mais si le temps fait qu'il ne peut pas y avoir de fécondation par les graines, il est capable de faire la parthénogenèse, c'est-à-dire il se clone lui-même pour former une graine. C'est-à-dire qu'il y a un cas où il est... Oui, c'est la méiose, c'est la cellule qui se sépare et qui va se reproduire lui-même. Ce qui fait que, quand on se promène, on voit une grande diversité de pissenlits qui ne sont pas exactement les mêmes, parce que le clonage fait que génétiquement, le pissenlit se reproduit comme le pied-mère, et donc au bout d'un moment, il y a différentes populations de pissenlits qui apparaissent avec ce clonage. Et si vous voulez, c'est comme si on prend au contact au niveau humain. Si tous les peuples de la Terre se mélangeaient, on n'aurait plus qu'une seule espèce humaine, si on voulait, avec les Africains, les Asiatiques. Et donc, d'avoir quelque chose qui est beaucoup moins ciblé au niveau génétique, quelque part. Donc, alors qu'avant, quand les peuples restaient en vase clos, on avait une moins grande diversité génétique. Donc, ce pissenlit, il est capable de se reproduire dans toutes les conditions, quelque part. Il gèle, il ne peut pas se reproduire par le pollen, il va pouvoir quand même faire des graines. Les insectes, il a fait trop froid aussi, les insectes, ils sont enfermés au moment, ils sont dans leur ruche au moment du pissenlit, il a toujours les possibilités. Voilà. Et donc, dans son caractère, il y a ça aussi, ce pragmatisme, s'adapter à toute situation, quelque part, quelle que soit la situation, on va faire. Donc voilà. Alors, pour en venir un petit peu aux propriétés du pissenlit, donc on récolte. Alors, on peut l'utiliser en cuisine. Donc, on peut récolter les feuilles donc, pour faire des salades. On peut les faire cuire aussi, cuisiner comme des épinards. Les boutons floraux ou les fleurs peuvent se manger aussi.
Ah oui,
il y a tout peut se manger. La racine, c'est un peu dur quand même.
Ouais.
Par contre, au niveau infusion, au niveau phytothérapie, on utilise les feuilles ou la racine. Donc, les feuilles qu'on ramasse au printemps là, et la racine qu'on ramasse en fin d'été, disons. Et c'est une plante vraiment indiquée pour les troubles hépatiques, les troubles du foie, quelque part. Donc, c'est vraiment même du problème de cholestérol. Alors, le foie, je ne sais pas si on a le temps de parler du foie.
On peut s'y arrêter, oui. Oui.
Le foie, c'est, si vous voulez, c'est l'endroit... Quand on mange, quand on s'alimente, donc ça va être dégradé dans l'estomac, et ensuite ça passe dans les intestins. Et là, à ce moment, dans les intestins, il va y avoir un passage d'éléments qui ont été dégradés, qui ont été humanisés, quelque part, qui vont passer dans le sang. Parce que, bon, le sang, un peu comme la sève, il y a la sève, on avait parlé de sève brute, de sève élaborée, eh bien, le sang, il va se charger d'éléments, et quand il revient, il n'y a plus ces éléments. Hein, il y a une circulation, voilà, de sang élaboré, si on veut, et de sang brut. Et si vous prenez du jus de carotte et que vous le mettez directement en intraveineux, vous faites une apoplexie. C'est impossible. C'est un poison. Mmh. Il faut que ça ait été passé par l'estomac, que ça ait été humanisé par la flore, tout, et puis ensuite la flore intestinale qui va dégrader. Et là, il y a un passage par de minuscules vaisseaux sanguins qu'il y a entre les intestins et puis une paroi qui s'appelle le mésentère, qui tient les intestins. Et tout ce sang va aller vers le foie qui va finir de filtrer. Quelque part. Et le foie, quelque part, c'est un filtre.
Un émonctoire. Oui.
Voilà, c'est un émonctoire. Et le pissenlit, c'est un émonctoire aussi. On a dit que le pissenlit, il est là pour quand il y a trop d'organiques non élaborés, quelque part, d'organiques purs. Il est là pour le filtrer, pour le nettoyer, pour en faire quelque chose. Donc, on voit cette relation avec le foie. Voilà. Donc, et donc, avec l'environnement et tout ce qui a trait à favoriser une bonne relation dans l'environnement, quelque part. Une bonne relation entre les plantes. Voilà. Donc, parce que le foie, c'est le filtre qu'il y a entre l'extérieur, donc l'aliment qu'on ingère, et notre intérieur, c'est-à-dire notre sang qui correspond à notre moi propre, quelque part. Voilà, donc, quelques petites notions encore. Je vois David,
oui, on est pas
les
mal...
yeux de David qui tournent.
Sur les deux écrans, le chrono
clignote. Il n'a pas osé m'interrompre.
Ah ben non,
mais c'est dessus. Dommage, parce que... Mais, voilà. Bon, donc, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur l'utilisation, en tout cas en décoction pour les racines, en tisane pour les feuilles, en cuisine, en salade, en légumes, en confiture, en apéritif, le vin de pissenlit, les confitures de pissenlit, de fleurs, tout ça, et les fleurs de pissenlit qu'on utilise en biodynamie.
C'est le couteau suisse de la nature, le pissenlit.
Voilà.
Merci Didier. La prochaine fois, vous savez de quoi on parle. Est-ce qu'on s'attarde à la est-ce qu'on s'attaque à la valériane ou
Oui, et ça sera très bien parce qu'en avril, ne te découvre pas d'un fil et on utilise la valériane pour lutter contre les coups de froid du printemps dans les cultures.
Bah, je ne connais pas du tout la valériane. Je ne sais même pas à quoi elle ressemble.
Eh bien oui, mais d'où là, l'intérêt... ce sera plus difficile parce que beaucoup de gens ne la connaissent pas.
Allez, rendez-vous le 11 avril pour la suite de l'exploration de la biodynamie avec Didier Vallet, spécialiste de la biodynamie et des plantes aromatiques et médicinales au sommet fleuri de la biodynamie sur le territoire. Merci Didier, à
au
très bientôt.
David. Au revoir à tout le monde.
CFM Villefranche, le MAG.